J'aimerais vous parler d'un invité un peu spécial que nous allons avoir ce soir. On l'a rencontré il y a quelques semaines. Il s'appelle Leonardo Boff. Il est peu connu en France, mais vous allez voir, c'est sans doute l'une des figures, je dirais, peut-être les plus importantes aujourd'hui de l'écologie. À l'origine, c'est un prêtre brésilien, ce Leonardo Boff, et ce qu'on appelle un théologien de la libération, donc néo-marxiste, post-révolutionnaire, assez critique avec l'église notamment de Paul VI et de Jean-Paul II dans les années 70 et 80. Après avoir été longtemps prêtre en Amazonie, avoir vécu au contact des populations indigènes, vivant avec elles, il a eu une violente opposition justement avec le pape Jean-Paul II et surtout le cardinal Ratzinger, au point qu'il quittera les ordres et va finalement se marier. Dans les années 80, le toujours malgré tout théologien, Leonardo Boff, se met à penser à partir de la Bible le statut de la terre. Il publie plusieurs livres majeurs sur le sujet et il est l'une des sources principales, sinon le rédacteur, écoutez bien, de l'encyclique Laudato Si, celle sur l'environnement du pape François. À ce titre, il reçoit le prix Nobel alternatif et il est aujourd'hui l'un des penseurs de l'écologie les plus importants puisque ses idées influencent désormais des millions de catholiques à travers le monde. Nous sommes chez lui, à Petrópolis, à plusieurs heures de route au nord de Rio de Janeiro, au Brésil, dans la forêt atlantique, dans sa maison, toute de bois, parmi les animaux. Leonardo Boff vit là avec sa désormais et célèbre épouse Marcia, avec laquelle il vit donc depuis qu'il a cessé d'être prêtre. Il nous invite à manger tout en faisant l'entretien que vous allez entendre. Interview réalisée pour France Culture en exclusivité cet été à Petrópolis. Leonardo Boff.
Ça, c'est italien parce que sa famille est italienne.
C'est du jambon, une sorte de jambon.
Mais ce n'est pas bien le jambon. C'est une chose qu'ils ont fait avec la viande et les gras. Et comment s'appelle cela? Eu já esqueci o nome. Não, é carne de porco. Mas como é que chama isso? Peraí, Leonardo, você falou para mim.
Pois é, eu esqueci. Pancetta.
Pancetta. Je vais goûter le fromage.
Cela, c'est très bon.
C'est quoi ça?
Frédéric, cela, c'est très bon.
Et c'est quoi?
C'est une douce d'orange.
Un gâteau
d'orange. J'habite ici dans cette rue qui en africain s'appelle la rue des papillons. Parce qu'à Gillé et à Où, il y a beaucoup, beaucoup de papillons dans tous les sorts.
Et la ville s'appelle comment ici?
La ville s'appelle Petrópolis, chez Rio. Et la région ici, c'est Araras. C'est le nom d'un oiseau de la forêt amazonique.
On dirait qu'on est dans une sorte de forêt, justement, un peu tropicale ici, au milieu de la campagne, comme un chalet de montagne.
Et ici, une partie de la forêt atlantique, qui était déforestée au commencement du Brésil, mais très, très riche en biodiversité. Et nous vivons dedans d'un petit morceau qui est resté. Et c'est très intéressant de vivre avec les oiseaux, les animaux, et le vent, l'équilibre du climat, parce que ici à Petrópolis, il est très froid parce qu'il est dans la montagne.
Vous êtes un des théologiens qui a permis à l'Église catholique de prendre en compte de manière très sérieuse la question de l'environnement. Comment s'est fait cette évolution?
Nous avons vu beaucoup de théologiens latino-américains que la question centrale de notre société, c'est l'injustice sociale. La plupart de la population vit au dehors, vit dans les favelas, vit les misères, dans les bidonvilles. Et cela, c'est un défi humanique au commencement, un défi éthique, parce qu'on voit la souffrance des personnes, la famine, la désespération. Alors on se demande comment annoncer un Dieu qui est bon, qui est humain, dans un monde inhumain, un monde de misérables. Et cela, c'était un défi pour la théologie, de faire une théologie engagée pour la justice sociale. Et à cause de la pauvreté, qui est l'expression de l'oppression, et l'opposition de l'oppression, c'est la libération. Alors on a substitué la parole développement par libération, qui est plus concrète et dit directement la situation que nous voulons pour les peuples qui sont opprimés.
Vous avez vécu notamment régulièrement en Amazonie. Vous pouvez peut-être me dire comment cette expérience, à la fois dans la forêt amazonienne, mais aussi au contact des populations indigènes, vous a influencé pour cette théologie?
Le contact avec l'Amazonie est un contact inexplicable, parce qu'on a l'impression de que la personne humaine ne vaut rien. La grandeur de la forêt, de fleuves, et dans toutes ces forêts vivent des Indiens tout à fait adaptés à cette situation, intégrés comme partie de la nature. Et pour moi, c'était toujours un défi, une admiration de voir comment ils étaient intégrés et comment ils pouvaient vivre bien, en équilibre avec la nature. Et au même temps défendre sa culture contre l'invasion de la culture moderne par la télévision, par des moyens de communication. Et c'est là un conflit permanent et nous avons toujours appuyé et renforcé la résistance de conserver les traditions, la sagesse de ces tribus. Et cela, c'était un travail pour nous, un travail d'évangélisation, c'est-à-dire de sauver la vie des personnes plutôt qu'annoncer des contenus religieux.
Le texte sans doute le plus important de l'Église catholique sur ces questions s'appelle l'encyclique Laudato Si du pape François, qui a été précédé par tout un tas d'ouvrages de théologiens, dont les vôtres. Comment est-ce que vous définiriez cette encyclique d'un point de vue de l'environnement au fond intégral?
Je pense que cette encyclique est le point plus avancé de la pensée écologique, parce qu'il n'est pas une écologie verte, mais une écologie intégrale qui recouvre la dimension ambientale, la dimension politique, la dimension culturelle, la dimension mentale et aussi la dimension spirituelle. Et cet encyclique est écrit pour l'humanité, pas seulement pour les chrétiens, parce que le pape a pris la conscience des menaces qui viennent sur le système terre, le système vie, et que toutes les églises, les personnes, les chemins spirituels doivent collaborer pour sauver cet héritage fantastique de l'évolution de Dieu. Et l'Amazonie est fondamentale pour l'équilibre de ce système de la terre et de la vie.
Vous êtes ce qu'on appelle un théologien de la libération. C'est une théologie qui a été popularisée dans les années, à la fin des années 60, début des années 70, dans une dimension de prendre au sérieux la pauvreté, de redonner du pouvoir aux pauvres dans un esprit un peu post-marxiste. Et en même temps, ce courant a évolué vers l'environnement, vers les femmes, vers les questions LGBT. Comment est-ce que vous avez vécu cette évolution dont vous êtes l'un des artisans principaux?
Le centre de la déstéologie est l'option pour les pauvres contre la pauvreté et pour la justice sociale ou pour la libération. On a vu qu'il y a beaucoup de formes de pauvreté. La pauvreté économique, la pauvreté de la population afro-latino-américaine, l'oppression des femmes, l'oppression des LGBT. Il y a beaucoup de formes d'oppression. Pour chaque forme d'oppression, il est nécessaire de formuler et de mettre en marche une libération spécifique. Et cela a été une découverte lente qui a permis que la théologie de la libération s'est organisée autour de ce thème et finalement de penser la terre même, parce qu'on a vu qu'on doit mettre dans l'option pour les pauvres, les grands pauvres, que la terre exploitée jusqu'à la limite. Et alors, il faut aussi libérer la terre qui est crucifiée, il faut ressusciter la terre parce qu'elle soit la maison commune de toute l'humanité, de toute la communauté de vie.